Quand prend un thé, c'est un dilemme avec deux M ou sans. Vous êtes censé savoir, ça prend S ou ça prend C. Mais pourquoi choisir entre l'accent grave ou l'aigu? Il y a de la collusion ou de la collision dans l'air. Petite leçon d'orthographe, êtes-vous prêt avec un thé?
Pascal Paradou.
Pourquoi bien écrire? Parce que c'est mieux. Comment bien écrire? Ça, c'est plus compliqué, mais apparemment à portée de plume ou de clavier, si j'en crois Julien Soulier, qui publie le certificat Voltaire pour les nuls. Bonjour Julien Soulier.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de l'orthographe, ancien prof de lettres et expert au sein du projet Voltaire. Alors avant de savoir si le mot projet prend un T ou un D, racontez-nous ce que c'est que ce projet Voltaire.
Eh bien, le projet Voltaire, en fait, c'est la première solution de remise à niveau en expression et en orthographe. Alors au départ, c'était uniquement en orthographe. Et depuis un an ou deux, c'est aussi en expression parce qu'évidemment, il n'y a pas que l'orthographe et la grammaire dans la vie. Il y a aussi le vocabulaire, la syntaxe, la façon de s'exprimer plus généralement et pas uniquement l'écrit. Il y a même maintenant des solutions pour travailler sur l'oral puisque maintenant, il y a le fameux grand oral au bac. Donc vraiment, ça, le projet Voltaire balaye un petit peu tous les champs de la langue française pour faire en sorte que les utilisateurs de la langue française puissent mieux s'exprimer à l'écrit comme à l'oral.
Mais qui est à l'origine de ce projet?
Alors, à l'origine, c'est une société qui s'appelle Woonos et qui a...
Woonos en anglais pour parler du français.
Oui, en
bon
français.
Bravo.
Bah, oui,
bah, alors là, vraiment...
Mais ça, c'était avant que j'y arrivasse.
Voilà. Ah, je comprends.
Donc, non, Woonos, W-O-N-O-Z, donc à la française, mais effectivement, donc c'est une entreprise qui, à l'origine, fournit des solutions logicielles avec ce qu'ils appellent, avec ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel, qui a été créé par des scientifiques, qui a été breveté, qui est déposé, et qui permet effectivement, à force de travail sur la plateforme, d'acquérir de façon systématique et presque réflexe certaines habitudes, certaines connaissances pratiques ou théoriques.
C'est-à-dire que pour apprendre une langue, ou bien l'écrire, bien la parler, il faut qu'il y ait cet ancrage mémoriel.
C'est ça, il faut qu'il y ait cet ancrage mémoriel, et l'ancrage mémoriel repose bien sûr sur la réitération, sur la répétition, mais aussi sur le fait que au bout d'un moment, le cerveau n'est plus capable d'emmagasiner certaines informations. Donc, la plateforme, même si vous êtes accro à ce que vous faites, elle vous coupe à un moment donné pendant 36 heures, de sorte que votre cerveau puisse emmagasiner et que les savoirs puissent se décanter et être bien ancrés, vraiment, dans votre petite tête.
Donc, ce projet Voltaire existe depuis une dizaine d'années le certificat Voltaire. C'est donc quoi? Une certification?
Oui, c'est un certificat qui est de plus en plus reconnu. C'est un peu l'équivalent du TOEIC, mais pour la langue française. Et c'est vrai qu'au début, on a eu assez peu de certifiés, mais maintenant, depuis 2010, on est à 300 000 certifiés quand même. Donc ça, c'est une certaine ampleur. On a 2000 centres d'examen, on a des milliers d'institutions publiques ou privées, d'entreprises, des banques, des assurances, etc., qui utilisent des écoles post-bac, des IUT, des écoles d'ingénieurs, etc., puisque les difficultés orthographiques ne touchent pas qu'une petite partie de la population, mais bien tous les salariés.
Mais ça se fait surtout en ligne.
Ça se fait en ligne. Alors, vous pouvez aussi avoir, selon votre, le contrat que vous avez signé, vous pouvez avoir ce qu'on appelle en bon français du coaching, c'est-à-dire un accompagnement avec un coach qui vous aide semaine après semaine à bien revoir certaines règles, à retravailler certaines règles qu'éventuellement vous n'aurez pas bien assimilées.
Et donc, ça se passe comment? J'ai cru comprendre qu'il y avait des phrases qui étaient proposées et qu'il fallait... corriger.
C'est ça, exactement. Donc le travail, c'est sur la faute. Donc on vous propose des... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je synthétise un petit peu. On vous propose... Alors d'abord, ce qui est important à savoir, c'est que vous avez au début, vous allez sur la plateforme, sur le site, et vous passez un test de positionnement qui dure un quart d'heure. Et là, là où est la grande force du projet Voltaire, c'est que à partir de ce test de positionnement, on va vous proposer un parcours personnalisé et qui ensuite va s'adapter au fur et à mesure à vos difficultés, à vos réticences, aux règles que vous avez du mal à assimiler, le logiciel revient dessus. Et donc, évidemment, si vous faites le test, moi je fais le test, nous n'aurons pas le même parcours. Et même après, lorsque nous travaillerions les règles, nous n'aurions pas le même parcours, vous et moi. Chacun a son parcours personnel.
Oui, j'imagine qu'on n'aurait pas tout à fait le même parcours parce que je ne suis peut-être pas aussi doué en orthographe que vous ne l'êtes. Mais alors, pourquoi Voltaire ? Parce que c'est toujours la faute à Voltaire, comme
c'est
le chant de Gavroche dans Les Misérables.
Ça aurait pu être Rousseau, mais bon, Rousseau étant parti en Suisse, on a préféré Voltaire, j'imagine. Voltaire, parce qu'évidemment, c'est un grand personnage des Lumières, c'est celui qui représente l'humanisme, celui qui a lutté pour des causes très justes, qui a parfois été d'ailleurs souvent mis à mal. Mais effectivement, c'est surtout cet esprit des Lumières. C'est aussi quand même un grand stylisticien. C'est quelqu'un qui manie la langue avec beaucoup de talent, qui maîtrise très bien le style, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui représente bien une certaine idée du français, on va dire.
En tout cas, avec ce certificat, on est moins misérable devant l'orthographe, puisque vous le signalez, c'est vrai, l'orthographe dans la vie quotidienne, dans les entreprises, c'est souvent un marqueur social.
Oui, il y a une forte pression sociale sur l'orthographe, à tort ou à raison, hein, moi je ne juge pas. C'est vrai qu'on pourrait très bien dire, effectivement, quelqu'un peut très bien commettre des erreurs en orthographe et être très compétent pour son poste. Et bien, malgré tout, les lettres, les recruteurs, on s'est aperçu que dès la première ou la deuxième faute dans les lettres de motivation, c'était rédhibitoire et ça partait à la poubelle. Donc ça peut être, on peut le regretter, hein, mais c'est comme ça. Donc évidemment, ou bien on ronchonne un peu, ou alors on prend un petit peu le taureau par les cornes et puis on s'y met. Et je pense que avec le projet Voltaire, on peut s'y mettre assez facilement, chacun à son rythme et de façon à réussir.
Donc, avant d'écrire sa lettre de motivation, on révise son petit soulier, puisque ça pourrait être aussi le petit nom de ce livre.
Ça sonne bien, je trouve.
Ça sonne plutôt pas mal. Et pour les lettres d'amour, c'est aussi pas mal. En parlant d'orthographe, on a pensé à Gainsbourg.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime,
ne prends qu'un aime,
par-dessus tout. Ne me dis point,
il en manque un,
que tu t'en fous. Je t'en supplie,
point sur lui,
fais-moi confiance. Je suis l'esclave,
sans accent grave,
des apparences. C'est ridicule,
c'est majuscule.
C'était si bien. Tout ça m'affecte.
Ça, c'est correct.
Au plus haut point. Si tu renonces,
comme ça se prononce,
à m'écouter, avec la vie,
comme ça s'écrit,
j'en finirai. Pour me garder,
ne prends qu'un dé,
tant de rancune. Pas de cœur, y a pas d'erreur.
Là, y en a une.
J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute.
Là, y en a pas.
Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins. N'en prends pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
En relisant ta lettre, Gainsbourg, en prof d'amour et d'orthographe, nous recevons aujourd'hui sur RFI Julien Soulier, auteur de nombreux ouvrages sur l'orthographe, dont le dernier en date, le certificat Voltaire pour les nuls. Et dans votre livre, Julien Soulier, à propos de l'auteur, je lis que vous êtes un psychopathe des mots. C'est dangereux, ça, qu'il y ait deux T ou un TH.
Alors là, je crois que vous êtes de mauvaise foi, vous avez oublié un mot, un gentil psychopathe des mots.
Oui, voilà. Mais bon, il y a quand même psychopathe qui pèse lourd. Pourquoi vous êtes un gentil psychopathe des mots ?
Parce que les mots me travaillent, me plaisent depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que j'ai étudié le grec et le latin, l'étymologie, les racines. J'adore aussi les langues étrangères. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me passionne, une espèce de mystère, découvrir, remonter sur les traces des mots, chercher leur origine, remonter à l'origine suprême d'un mot. Je trouve ça passionnant de remonter jusqu'au latin, grec, voire à l'indo-européen, quelque chose qui me passionne. C'est un peu... Voilà, chacun ses phobies, chacun ses manies et chacun ses psychopathologies.
Hein. Et ses folies. L'orthographe et la politesse de la langue, disait Guéhenno, un auteur du XXe siècle que vous citez. Est-ce que c'est vrai encore au XXIe siècle?
De moins en moins, je pense. Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même encore cette pression, mais... Je pense qu'il y a un rapport un petit peu ambigu à notre langue. À la fois, on l'adore. Il y a qu'à voir, dès qu'il y a une proposition, même très modeste, de réforme de l'orthographe, les gens sont vent debout. Et pourtant, d'un autre côté, on a tendance quand même à la malmener. On ne la respecte pas toujours. On rouspète aussi contre elle parce que les doubles consonnes, l'accord du participe passé, la conjugaison, tout ça, c'est très compliqué. Donc, il y a un rapport un petit peu de « je t'aime » pour reprendre un peu Gainsbourg. Hein, « Je t'aime, oui. Moi non plus ». À la fois, on l'aime et puis à la fois, on la déteste parfois parce que c'est vrai qu'elle nous enquiquine parfois. Voilà.
Mais vous trouvez, comme certains le disent, pas mal de profs d'ailleurs, que le niveau baisse?
Alors ça, c'est un peu la tarte à la crème, j'allais dire, mais c'est vrai. Moi, j'ai enseigné pendant 17 ans et c'est vrai que j'ai vu quand même les compétences langagières plus généralement. C'est pas uniquement l'orthographe, ça n'est pas uniquement la grammaire. Disons que la grammaire, l'orthographe, c'est un peu la partie émerge de l'iceberg, mais c'est vrai qu'au point de vue de l'expression plus généralement, que ce soit à l'oral, à l'écrit, que ce soit la syntaxe, le vocabulaire, moi, je trouve qu'il y a quand même un appauvrissement et un désintérêt ou du moins une indifférence à la façon dont on écrit. C'est-à-dire, moi, les élèves me disent souvent « Mais monsieur, on se comprend. » Voilà.
Donc ça suffit.
Donc ça suffit à partir du moment où on se comprend. C'est pas la peine d'aller plus loin. Sauf qu'à force de se comprendre, de proche en proche, on ne se comprend plus.
C'est voilà. Le problème du téléphone arabe qui déforme au fur et à mesure.
Exactement. Là, on déforme petit à petit. Et puis après, effectivement, on peut très bien aller vers une orthographe très phonétique. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis plutôt opposé, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut quand même qu'on ait une espèce de patrimoine commun, quelque chose de commun pour qu'on puisse se comprendre.
Alors, votre livre, Julien Soulier, est plein d'astuces, d'explications pour écrire correctement. Mais finalement, est-ce que c'est si grave de faire des fautes d'orthographe, d'autant que la faute est une invention récente, comme nous l'a expliqué très récemment le linguiste belge Bernard Fripia, qui en revient lui aussi à Voltaire.
Oui, on est libre. Hein. Dans une lettre de Voltaire, vous avez le même mot écrit de trois manières différentes. Vous avez même le Robert Estienne, qui pourtant était l'orthodoxe. Le mec, à notre époque, il serait très dur. Il dit, bon, ben moi, j'ai envie de mettre un G à 1. Ben, s'il y en a qui ne veulent pas mettre, qui ne le mettent pas. Mais ben, on fait comme on veut, quoi. Vous aviez même un pédagogue qui avait lâché. Mais qu'est-ce qu'on a à s'exciter? Certains veulent écrire connaître comme ça, d'autres autrement. Bon, ben écoutez, il n'y a pas qu'une manière de cuire un œuf. Voilà, il y a une liberté. Et Voltaire, évidemment, qui a des opinions sur tout, hein, imposait son orthographe à ses imprimeurs, ce que les auteurs essayaient en général, mais pas toujours en réussissant. Mais Voltaire, on ne discute pas. Alors, les imprimeurs, pour se couvrir ou se faire de la pub, ils mettaient « selon l'orthographe de Monsieur de Voltaire ». Et ça va durer jusqu'en 1835, où le gouvernement décide que l'administration obéira au dictionnaire de l'Académie. Oui, mais du coup, il faut le connaître. Donc, à partir de ce moment-là, on fait des examens pour entrer. Il y a une épreuve d'orthographe. Du coup, dans les bouquins, pour donner un bouquin aux gosses, vous avez envie d'un bouquin où il n'y a pas de faute. Et c'est ainsi qu'on crée la faute d'orthographe. Mais c'est au 19e siècle, pas avant. Hein.
Alors, Julien Soulier, la faute d'orthographe créée de toutes pièces au 19e siècle, est-ce que vous pensez que Voltaire aurait eu son certificat s'il n'en faisait qu'à sa tête?
Je ne suis pas sûr, parce que si on relit, ne serait-ce, là j'ai relu récemment un extrait de Candide dans l'orthographe de Voltaire, et c'est vrai qu'avec nos critères d'aujourd'hui, on pousserait des cris d'orfraie. Mais c'est vrai que si on reprend jusqu'à là, alors au Moyen-Âge, l'écriture était très phonétique, on l'oublie souvent, mais le doigt, on l'écrivait par exemple DOI. C'est ensuite que ça s'est compliqué, et il faut savoir qu'à la Renaissance, effectivement, il y avait une orthographe de Montaigne, ensuite il y a eu une orthographe de Voltaire, il y avait une orthographe de Ronsard. Donc les auteurs, et surtout Bernard le dit bien aussi, les imprimeurs avaient, ce sont eux qui ont créé en partie l'orthographe. Et donc effectivement, ils ont créé des signes, ils ont créé les accents, ils ont créé le tréma, enfin voilà, ils ont créé la ponctuation aussi, tous ces imprimeurs, en lien ou pas avec leurs auteurs. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être pas autant, mais presque autant d'orthographes qu'il y avait d'auteurs et d'imprimeurs. Et c'est ensuite, mais je pense que ça, c'est le côté très jacobin et centralisateur de la France. De même qu'on a créé l'Académie française pour faire un peu le nettoyage, le cardinal de Richelieu en 1635, l'Académie française, pour nettoyer un petit peu, entre guillemets, toutes ces scories, toute cette langue qui partait un peu dans tous les sens, pour centraliser et pour avoir aussi un pouvoir absolu qui ne soit pas que politique, mais qui soit aussi linguistique, puisque la langue, c'est aussi un pouvoir, bien sûr. Et donc, effectivement, au 19e, avec la bourgeoisie, quasi naissante, avec voilà, on commence l'enseignement qui commence à se généraliser pour les garçons. C'est vrai qu'à ce moment-là, on commence à avoir, il faut centraliser, et donc il faut centraliser la langue, et ça passe par un contrôle très fort de l'expression et donc de l'orthographe. Et c'est pour ça qu'on crée la faute, qu'on crée les dictées, qu'on crée toute cette norme qui peut paraître très pesante, mais dont on est encore les héritiers aujourd'hui.
Mais dont on peut quand même se libérer ponctuellement. C'est Raymond Queneau qui disait « L'orthographe est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une vanité ».
C'est vrai, c'est vrai.
Et c'était un grand écrivain.
Oui, c'est vrai, j'allais le dire. Lui adorait le fameux « D'où qui pue donc tant », l'incipit de Zazie dans le métro, où il écrit en phonétique, où il francise systématiquement aussi les anglicismes du type « beefsteak », il écrit B-I-F-T-E-Q-E. Donc c'est vrai que là, il joue. Mais j'allais dire, ce qui chez lui est un effet de style, chez nous est une faute impardonnable. Voilà, n'est pas écrivain qui veut, malheureusement.
Nous ne sommes pas tous égaux.
Exactement.
Pour avoir son certificat, Julien Soulier, il faut combien de points ? Avec un T, hein ?
Oui, parce que ce sera un peu plus violent et un peu plus dur. Alors, il ne faut pas avoir des points. Vous êtes noté sur 1000 et vous avez un score plus ou moins élevé. Donc, on considère qu'à partir de 500, vous avez un niveau technique à peu près acceptable. À partir de 700 sur 1000, hein, c'est sur 1000. À partir de 700, vous avez un bon, voire très bon niveau professionnel. Et à partir de 900, vous faites partie de ce qu'on pourrait appeler les happy few. C'est-à-dire le niveau excellence. Alors, ce sont souvent des gens qui deviennent correcteurs, qui sont enseignants de français. Certains journalistes aussi, il faut le dire. Parfois, on a tendance à crier haro sur les journalistes, mais on a aussi des journalistes qui
arrivent... De presse écrite.
De presse écrite, de la radio aussi, bien sûr.
Mais j'ai quand même l'impression que souvent, et on parle de radio, mais je le dis souvent, on désécrit, on apprend à désécrire en radio, parce que c'est l'oral qui prime sur l'écrit, donc j'ai l'impression de faire beaucoup plus de fautes d'orthographe aujourd'hui que je n'en faisais il y a 30 ans quand je suis sorti de l'école ou de l'université. Et puis, la langue résiste, c'est vrai qu'elle est compliquée pour un étranger ou quelqu'un qui ne baigne pas dans ce bain linguistique, c'est très compliqué le français. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de foi, et elle se dit « bah foi ». Comment vous allez raconter ça à un étranger ?
Oui, c'est vrai que pour les étrangers, la langue française, enfin l'orthographe surtout, hein, à l'oral, c'est plus simple. Le problème, entre guillemets, j'allais dire, ou le plaisir, selon le point de vue que l'on adopte, le problème de la langue française, c'est qu'en fait, on a une orthographe qui a 500 ou 600 ans de retard sur la prononciation. Voilà. Donc la prononciation a évolué, elle a pris le train, elle a pris son envol, et l'orthographe est restée à quai avec 400 ou 500 ans de retard. Ce qui vous explique qu'on prononce monsieur, mais qu'on écrive monsieur. Moi, ce mot-là, des mots aussi simples que monsieur et femme, quand on est français, quand on est francophone, on ne s'en aperçoit pas, mais quand on est étranger, imaginez un mot comme ça qui s'écrit M-O-N-S-I-E-R et qu'on prononce monsieur. Il n'y a quasiment aucune lettre qui se prononce normalement. Femme. Pareil, ce « e » qui se prononce « a », d'où ça vient ? Enfin, il y a des explications linguistiques et phonétiques, mais c'est vrai que, c'est ce que je dis en fait, la langue, pas à 100% des mots évidemment, mais une partie de la langue s'est figée avant la Renaissance et à la Renaissance, avec des lettres muettes, avec plein d'homonymes. Et puis, la prononciation a continué à évoluer. Mais c'est vrai que les homonymes, c'est un des... Je pense qu'on est peut-être une des langues, alors je ne maîtrise pas non plus des centaines de langues, mais même par rapport à l'anglais, qui en a pas mal, je crois qu'on est peut-être la langue qui contient le plus d'homonymes au monde. À la fois, ça peut nous paraître embêtant, mais à la fois, combien de jeux de mots ça nous permet ? C'est formidable. De dire tous les matins, je me fais un petit avocat, par exemple, au petit déjeuner. C'est formidable.
Alors, la question de la bonne orthographe, vous l'évoquiez, Julien Soulier, est toujours une question qui agite les milieux intellectuels, littéraires, pédagogiques, et ce, depuis des décennies. Christophe Benzitoun, qui est un chercheur en linguistique, vient de publier, c'était en mai dernier, « Qui veut la peau du français ?» Et il était notre invité dans De Vive Voix.
Souvent, on a l'habitude de dire que le danger vient de l'anglais, des anglicismes, d'un mauvais usage de la langue, le fait que les élèves et les enfants en général, génération après génération, l'auraient appauvri. Et en fait, moi, je prends le contre-pied à ces hypothèses-là en disant que finalement, c'est les puristes trop pointilleux qui font courir un risque, un danger, un péril mortel, comme dirait l'Académie française, à la langue française en l'embaumant, en fait, en faisant comme si c'était une langue morte. Ce qui est assez paradoxal, puisqu'on évoquait à l'instant l'Académie française, c'est quand vous lisez l'introduction des rectifications de 90 rédigée par Maurice Druon, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui est notamment donc un écrivain et un homme politique de droite, clairement de droite. Si vous lisez ce texte-là, vous verrez qu'il est beaucoup plus progressiste que beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, en disant que lui était absolument pour les rectifications orthographiques de 90, que la langue évoluait et que c'était bien normal et qu'il fallait l'accompagner, ce que devrait faire l'Académie au quotidien, et que à la toute fin de ce texte-là, il ajoute que sans doute il faudrait le faire avant 30 ans. D'accord.
Donc 90-2020, c'est la période.
Et sachant que les rectifications orthographiques ne sont toujours pas passées réellement dans l'usage.
Donc on est très en retard.
On est très très en retard.
Julien Soulier, vous partagez avec Christophe Zitoun, le sentiment qu'on est très très en retard, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu relégué au rang de puriste en étant aussi strict sur l'orthographe avec votre méthode, le certificat Voltaire?
Là, c'est la question piège. Non, mais c'est vrai que je comprends.
Vous avez le droit d'être puriste.
Oui,
aussi.
Non, mais je reprends toujours la phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi linguiste, qui s'appelle Bernard Cerchiglini, et qui dit « il faut être puriste à bon escient ». C'est-à-dire... il faut garder une certaine mesure. À la fois, effectivement, la langue française évolue. Elle vit, sinon, effectivement, comme le dit M. Zeitoun, ça devient une espèce de musée, quelque chose de momifié. Et on voit qu'à toutes les époques, la langue a évolué. La fameuse querelle des noms de fonctions au féminin. Autrice, les gens... vous écrivez d'orfra, on entend autrice, mais c'est affreux. Mais autrice, ça existait au Moyen-Âge. On le trouve chez Rousseau ensuite, donc c'est pas un mot qui est sorti comme ça de n'importe où, c'est un mot qui est très ancien. Donc effectivement, la langue évolue, la langue vit. Maintenant, il faut voir comment on veut, je veux dire, évolution, ça veut pas dire une évolution toujours positive. Il peut y avoir des choses, moi, comme les anglicismes, moi je suis assez partagé. Certains, je les trouve très utiles, c'est vrai que sandwich, weekend, voilà, et puis bon, ils ont été entérinés à un moment donné.
C'est l'usage maintenant.
À un moment donné, il y a prescription. Mais certains, par exemple, moi je trouve que coach, par exemple, qui vient remplacer en plus... tout un éventail de termes comme mentor, comme accompagnateur, comme entraîneur. Je trouve que là, ces anglicismes-là, quand ils sont utilisés à outrance et qu'ils viennent remplacer des mots français déjà bien implantés, là, je trouve qu'ils sont plutôt néfastes.
De vous à moi, Julien Soulier, est-ce que vous ne faites jamais de faute d'orthographe? Parce qu'en feuilletant votre livre, je suis à peu près certain que je n'aurai pas le certificat Voltaire aujourd'hui.
Mais si vous l'aurez, puisque je vous ai dit que vous l'aurez peut-être pas avec 1000 sur 1000.
Bah non.
Mais vous l'aurez quand même.
Vous croyez?
Peut-être avec 900, mais si.
Non.
Mais si. Faut toujours garder confiance.
Mais vous?
Moi, je
suis très envieux en vous posant cette question. Hein.
Si vous avez...
Jamais vous ne faites de faute d'orthographe.
Si, bien sûr. Mais je relis mes courriels, pas mes mails, mes courriels. Je les relis parce qu'il m'arrive de faire des fautes de frappe, des coquilles, ou même de penser à autre chose à un moment donné et de faire, je vous dirais pas lesquelles parce que ce serait trop affreux, mais de commettre des fautes qui sont du niveau peut-être CM2. Donc ça arrive à tout le monde. Le principe, c'est de se dire oui, tout le monde en fait, mais je peux progresser et je vais quand même essayer de nettoyer au moins les fautes principales. Il ne s'agit pas de choses de l'accord du parti passé des verbes pronominaux que peu de gens maîtrisent, mais je vais vous parler quand on le voit écrit EZ ou accent aigu, ça, c'est quand même assez choquant parce que ce ne sont pas des fautes d'orthographe, ce sont des fautes de grammaire qui mettent en jeu toutes les structures sous-jacentes de la phrase et donc la compréhension même de la phrase qu'on peut avoir.
Bon, je respire un peu. Julien Soulier, vous connaissez bien Lucie Bouteloup avec un P comme le loup. Tous les mercredis dans l'émission, vous lui avez souvent expliqué le sens des expressions populaires. Eh bien, la revoilà, car c'est la rentrée. La revoilà, je ne suis pas sûr que ce soit très Voltaire. La revoilà, car c'est la rentrée aussi dans la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal, bonjour Julien.
Bonjour Lucie.
Votre cartable est prêt, le prof est là.
Et oui Pascal, les vacances sous la pluie, c'est fini, la cloche a sonné et c'est le branle-bas de combat avant la rentrée. Le branle-bas de combat, donc je répète parce que l'expression mérite qu'on la décompose. Savez-vous seulement ce qu'est un branle? Pourquoi on le met en bas? Et qu'est-ce que le combat a à voir là-dedans? Beaucoup de questions donc que j'ai posées à Jean Pruvot, mais avant... La parole aux enfants, le branle-bas de combat, c'est quoi?
Moi, un branle-bas de combat, ça me fait penser à une arme de combat, parce qu'il y a combat dedans.
Ça me fait penser à une guerre qui s'achève sur un signe de paix, parce que pour moi, un branle-bas, c'est comme un arrêt de paix.
Branle-bas, ça me fait penser à quelqu'un qui est méchant pour le mot branle. Et bas, ça me fait penser à quelqu'un qui bat des gens qui n'ont rien fait. Donc c'est quelqu'un qui s'énerve sans raison.
Pour moi, branle-bas de combat, ça signifie qu'il y a beaucoup d'agitation ou que c'est le bazar.
Un branle-bas, ça me fait penser à quelque chose qui couperait les choses en bas. Parce que branle, ça me fait penser à couper, tailler. Et bas, ça me fait penser à bah, en bas, quoi.
Ça me fait penser à quelqu'un qui était à la guerre, à l'époque de la guerre, dans des bunkers. Et donc toujours, il devait se baisser et tout pour pas qu'on le voit, et donc maintenant bah il a le dos courbé et il voit tout le temps le bas, enfin le sol.
Un combat qui tue les gens, parce que les combats bah ça tue les gens.
La pluie à l'oreille.
Alors Jean, qu'est-ce que vous pensez des propositions des enfants?
Eh bien, il y a des choses délicieuses, et inconsciemment évoquer l'arme, on y reviendra, mais effectivement...
Oui, il y a le combat qui revient beaucoup.
Oui, le combat, et puis Branle vient lui-même de brandeler, qui vient de brandir et qui était porté une arme.
Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un branle?
Alors, un branle, ça vient du verbe brandeler. Et c'est, on parlait du branle de la coche. Brandeler, c'était agiter. Et donc, au départ, il y a le mot brandon dedans aussi. Agiter un tison, d'où agiter une épée, d'où une cloche. Branler une cloche, le branle de la cloche. Et puis finalement, ça s'est déformé, non pas vraiment, mais il y a eu une sorte d'image avec le bateau, où effectivement, quand on est dans le hamac, eh bien... le bateau avec le gîte vous fait branler, vous fait comme une cloche, petit à petit osciller. Et c'est de là que vient le branle. Alors, branle en tant que hamac dans un bateau.
Donc au départ, c'est un mouvement,
voilà,
une oscillation. Et puis, par analogie, ça devient le hamac qui se balance au gré des vagues.
Voilà, c'est ça. Et puis à partir de 1687, enfin c'est l'attestation, il y a le branle-bas. Alors le branle-bas, c'est... tomber du hamac, ou en tout cas vouloir descendre du hamac dans le bateau, et ça veut dire qu'on est au travail ou on est au combat. Et de là, effectivement, le branle-bas combat. Alors, qui est une opération un peu particulière.
Hein. Oui, alors qu'est-ce que c'est que le branle-bas de combat? Parce c'est qu'il faut quand même préciser que ces hamacs, ils étaient donc sur les entreponts.
Oui, c'est ça.
Donc, tous les matelots étaient sur les entreponts. Ils devaient nettoyer le pont tous les jours. Donc, tous les jours, ils étaient obligés d'enlever les hamacs.
Voilà, il y avait de toute façon donc, un branle-bas. Mais le branle-bas combat, là, c'est autre chose. Non seulement on le plie, mais on s'en sert aussi pour éviter les éclats.
Et donc, c'était pour protéger les matelots, pour des éclats des navires ennemis.
Bah, c'est-à-dire, on servait du hamac pour ça, mais en même temps, les matelots étaient prêts à se battre derrière les canons, parce qu'il s'agit de ne pas couler, hein, c'est bien l'objectif quand on est sur le bateau dans un combat. L'expression est quand même assez tardive, puisqu'elle vient de 1835. Il y a d'abord eu le branle, puis le branle-bas, 1687, et le branle-bas combat.
Donc on est passé de l'opération pour se préparer en cas de combat à une opération
ordinaire
sur les navires.
Voilà, sur les navires. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que c'est passé dans le langage général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, là, ah là là, c'est la rentrée, c'est le branle-bas combat dans la maison. C'est-à-dire que tout le monde prépare ses cartables, dans un certain bruit aussi. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans le vocabulaire...
Dans un certain bruit et dans un certain désordre.
Désordre, voilà. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans la marine, le branle-bas existe. Hein, ça veut dire les préparatifs de l'équipage du bateau.
C'est la manœuvre.
C'est la manœuvre. Et le branle-bas général, c'est pour évoquer donc cette agitation très vive d'une opération précise.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? C'est le branle-bas de combat, c'est le grand chambardement?
Oui, c'est le grand chambardement.
Le remue-ménage.
Le remue-ménage, je crois que c'est le mieux. C'est le grand désordre.
Le tohu-bohu.
Le tohu-bohu, c'est aussi une très belle expression.
Qu'on utilise moins quand même. Hein.
Oui, et puis c'est vrai que là, les enfants, c'est pas encore de leur âge de parler de branle-bas combat. Mais ça viendra, parce que c'est une expression tellement imagée que dès qu'on l'a comprise, on l'utilise. Puis on aime ces images qui nous viennent des bateaux. Hein.
Eh bien, merci beaucoup, Jean, grâce à vous. Point de tohu-bohu, ni de branle-bas de combat dans la puce aujourd'hui, mais une rentrée en rang bien serré. Je rappelle aux auditeurs que vous avez récemment fait paraître Les mots de l'école aux éditions Honoré Champion. Merci, Jean, et puis à très bientôt autour d'une nouvelle expression.
Avec un grand plaisir.
Merci à tous les deux. Branle-bas de combat, Julien Soulier, avec ou sans trait d'union? Sachant que le trait n'est pas très facile. Hein.
Avec trait d'union.
Avec trait d'union, oui. Et trait T-R-A-I-T-S, à ne pas confondre avec le trait E-accent.
Ça, je vous laisserai vérifier par vous-même.
Merci Julien Soulier. Le certificat Voltaire pour les nuls est édité par First Edition. Et dois-je dire que votre nom ne s'écrit pas comme une chaussure? Il y a des souliers et un soulier. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploca, à demain.